Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je vais revenir un petit peu sur la magnifique fête d'hier, la fête de l'Annonciation à la Sainte Vierge Marie, qui n'est ni plus ni moins que la fête du mystère de l'Incarnation, puisque l'Incarnation a eu lieu le 25 mars, jour où l'ange Gabriel est venu demander à la Sainte Vierge Marie si elle acceptait devenir la mère du Sauveur. C'est tellement un des mystères les plus importants de la foi catholique, mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vient s'unir à notre humanité. C'est un mystère tellement grand que la plupart des hérésies, au moins au début de l'Église, surtout au début de l'Église, vont se greffer sur ce mystère, soit par ceux qui refusent l'humanité, soit par ceux qui refusent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose de tellement grand que c'est absolument incompréhensible pour nous. Comment est-il possible que Dieu, créateur du ciel et de la terre, Dieu puisse s'unir dans le sein de la Sainte Vierge Marie à notre humanité et prendre notre humanité, prendre une âme créée de toutes pièces. Comment Dieu, créateur du ciel et de la terre, a-t-il accepté de s'unir à quelque chose de créé? Tellement incroyable que même parfois dans la tradition, on entend des gens qui nous disent « Monsieur l'abbé, c'est pas possible que Dieu se soit uni à quelque chose de créé. Il n'y a rien de créé en notre Seigneur puisqu'il est Dieu. » C'est faux. Notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. En tant que Dieu, bien sûr, deuxième personne de la Sainte Trinité, il n'est pas créé, il est incréé puisqu'il est Dieu. Mais en tant qu'il s'est fait homme, il a pris un corps et une âme dans le corps, dans le sein de la très sainte Vierge Marie, une âme créée de toutes pièces par Dieu, pour s'unir justement à notre humanité. Si notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement Dieu, il est aussi véritablement homme. Et s'il est véritablement homme, il a un corps humain et une âme humaine. Ce corps humain de notre Seigneur Jésus-Christ, cette âme humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, n'ont pas toujours existé. Ils ont été formés de toutes pièces, littéralement, par notre Seigneur Jésus-Christ, créés par Dieu, le 25 mars, au moment précis où la très sainte Vierge Marie a donné son fiat. Fiat mihi secundum verbum tuum. Qu'il soit fait à moi selon votre parole. Et une dévotion privée, apparition privée, bon, on peut toujours l'utiliser comme moyen de méditation, nous dit qu'au moment précis où la très sainte Vierge Marie a donné son fiat, où elle a dit « Qu'il en soit fait en moi selon votre parole, j'accepte de devenir la mère du bon Dieu. » L'ange Gabriel et la très sainte Vierge Marie, tous les deux, sont tombés à genoux en adoration pendant 7 heures. Vient nous montrer justement l'importance de cette fête. Bien sûr, ce mystère de l'incarnation est lié au mystère de la rédemption. On sépare les deux mystères pour des raisons didactiques, pour qu'on puisse les comprendre plus facilement, au moins en partie. Mais les deux mystères sont unis. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ s'est-il fait homme? Notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme pour pouvoir mourir. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a pris une nature humaine afin de pouvoir mourir sur la croix. Et il y a dans ce mystère de l'incarnation des choses miraculeuses extraordinaires. Premier miracle, on peut dire comment notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il pu s'unir à une nature humaine non créée, je veux dire une nature humaine créée de toutes pièces, tout en restant Dieu. Deuxième miracle, comment la très sainte Vierge Marie, qui a la nature humaine, a-t-elle pu devenir mère de Dieu sans prendre la nature divine? Troisième miracle, comment la très sainte Vierge Marie a-t-elle pu devenir mère tout en restant vierge? La très sainte Vierge Marie est vierge avant, pendant et après l'arrivée en elle de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez comme il faut dans ce domaine-là faire très attention aux mots qu'on utilise, parce qu'on a très vite fait de dire des hérésies en matière dans le mystère de l'incarnation. Je vous conseille beaucoup pendant ces quelques semaines qui nous séparent de la fête de Pâques, puisque des dimanches prochains, ce sera le dimanche de la Passion, le temps de la Passion qui va commencer, on va couvrir les statues des dimanches prochains, méditer sur ce mystère de l'incarnation. Il y a deux façons de méditer sur ce mystère de l'incarnation. Première façon, la plus facile, c'est prendre tout simplement « Je vous salue Marie » et méditer chaque mot de « Je vous salue Marie » très lentement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Méditons sur les termes utilisés par l'ange. Termes que ta Seigneur Jésus-Marie elle-même n'a pas comprises au début. Elle s'est demandé, mais comment cela peut-il être possible puisque je ne connais point d'homme, puisque je suis sous un vœu de chasteté, comment est-il possible que je devienne la mère du Sauveur? Et l'ange a dû la rassurer en lui disant, l'Esprit Saint vous couvrira de son ombre. Et l'être saint qui va venir en vous sera le Fils de Dieu. Alors elle a compris qu'elle pourrait devenir mère tout en gardant sa virginité. Et c'est là où elle a donné son accord. Le miracle, le mystère de l'incarnation est tellement grand que pendant plusieurs siècles, l'Église catholique a évité d'utiliser l'expression Marie, mère de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église avait peur que des nouveaux baptisés, surtout les juifs baptisés, les juifs convertis, soient tentés de diviniser notre Sainte Vierge Marie. Et c'est évident que c'est une tentation très grande. Les pères de l'Église vont jusqu'à dire que notre Sainte Vierge Marie, bien qu'elle ne soit pas Dieu, bien sûr, ce n'est pas une déesse, elle est humaine, notre Sainte Vierge Marie touche à la divinité. C'est le terme qu'ils utilisent. Et donc, il a fallu l'intervention du Saint-Esprit, l'intervention d'un très grand saint, qui s'appelle Saint Cyril d'Alexandrie, au concile général d'Éphèse en 431, début de l'histoire de l'Église. Tous les évêques étaient rassemblés dans cette ville qui est actuellement en Turquie. Et bien, tous ces évêques étaient rassemblés pour décider justement si on pouvait donner à la très sainte Vierge Marie le titre de Mère de Dieu, Théotokos. Il a fallu l'intervention justement de Saint Cyril d'Alexandrie, un très grand docteur de l'Église, qui a fait ce jour-là un sermon mémorable pour expliquer non, la très sainte Vierge Marie est véritablement mère d'une personne qui est le Christ, et le Christ est Dieu. Le Christ étant Dieu, donc la très sainte Vierge Marie est véritablement, réellement mère de Dieu. On doit lui donner ce titre de mère de Dieu, bien qu'elle ne soit pas elle-même déesse. Et le sermon de Saint Cyril d'Alexandrie a emporté l'adhésion générale de tous les évêques. Alors le légat du pape est sorti de la basilique. On a ouvert tout grand les portes de la basilique. Il est sorti sur la basilique. La cour devant la place devant la basilique était noire de monde. Tous les gens d'Éphèse étaient venus là pour savoir quel allait être l'enseignement de l'Église sur ce sujet. Et le légat du pape a simplement dit cette phrase très, très, très courte. Elle est Théotokos. Elle est mère de Dieu. Et à ce moment-là, nous dit l'histoire de l'Église, une magnifique procession s'est organisée pour que, justement, la très sainte Vierge Marie puisse être honorée de façon publique, extraordinaire. Une procession en flambeau magnifique s'est organisée et la foule a raccompagné les pères conciliaires dans leur demeure. Alors, mes bien chers frères, réalisons la grandeur de la très sainte Vierge Marie. La grandeur de la très sainte Vierge Marie qui est mère de Dieu tout en restant à la fois vierge et à la fois homme. Encore une fois, ce sont des choses que nous ne pouvons pas comprendre complètement. Pourquoi? Parce que ce sont des mystères. Les mystères sont des faits qui ne peuvent pas être compris ici-bas parfaitement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas Dieu. Quand les enfants en catéchisme nous posent cette question qu'ils posent très souvent, Monsieur l'abbé, moi je veux comprendre tout. Je veux connaître mon catéchisme, je veux tout comprendre. Je leur dis, comment voulez-vous que vous, petits garçons, avec une intelligence qui est la taille d'un pois chiche, vous puissiez comprendre l'intelligence de Dieu qui est énorme et infinie. Alors ils comprennent. Ah oui, monsieur, je ne peux pas comprendre. Mon cerveau est trop petit. Exactement. Notre cerveau est trop petit, mais notre foi n'est pas petite. Notre foi va intervenir pour nous dire, elle est vraiment mère de Dieu. C'est vrai qu'on peut aussi méditer sur ce mystère extraordinaire de l'incarnation du Verbe. On peut aussi méditer tout simplement en utilisant les mots d'une angélus. L'ange du Seigneur a annoncé à Marie. C'est d'imaginer la scène. Voici la servante du Seigneur, qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Vous méditez ça, vous essayez de vous mettre dans l'histoire, de voir les personnes, les paroles, les actions qu'en fait Saint Ignace de Loyola dans ses exercices, les personnes, qui est-ce qui est là, les paroles, qui est-ce qui est dit, les actions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait, et méditer, se mettre, assister à la scène. Mettez-vous tout petit dans la scène de la très sainte Vierge Marie qui reçoit la vision de la message de l'ange. Et vous savez, pour la petite histoire, que le bon Dieu a tellement donner des grâces extraordinaires à l'endroit même où la Très Sainte Vierge Marie a reçu la visite de l'ange, que le bon Dieu n'a pas voulu que cette petite maison dans laquelle la Très Sainte Vierge Marie vivait tombe entre les mains des musulmans. Et l'église de l'Annonciation à Nazareth, cette église a été miraculeusement portée par les anges. Et enfin, elle a fait tout un voyage, d'abord en Yougoslavie, puis dans deux endroits différents d'Italie, portée par les anges de façon miraculeuse, pour finalement s'arrêter à Lorette. Lorette en Italie, vous pouvez voir à l'intérieur de l'église de Lorette, les Italiens ont vite construit une église autour de la maison pour être sûr qu'elle ne s'envole pas de nouveau. Et à Lorette, vous pourrez voir la maison où la Très Sainte Vierge Marie a dit son fiat. Donc la maison de l'incarnation. Alors, ce n'est pas pour rien, vous voyez, tout est providence, tout est grâce. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'Évangile parle de la multiplication des pains. Pourquoi ? Parce que la multiplication des pains a toujours été, d'après les Pères, le symbole de la Sainte Eucharistie. Notre Seigneur explique par des choses physiques des choses qui ne peuvent pas se voir. Le bon Dieu explique par des choses visibles des choses invisibles. De même qu'il va multiplier les pains que tous les gens qui assistent au serment de notre Seigneur Jésus-Christ vont être nourris avec ces pains de la même façon, quel que soit le nombre d'hosties que nous distribuons pendant la Sainte Communion, qui sont gardées dans le tabernacle, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement dans chacune de ses hosties, en chacune de ses hosties, avec le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Et il nous faut comprendre, mes bien chers frères, qu'à chaque fois que nous communions en état de grâce, nous recevons, nous renouvelons plus exactement le mystère de l'incarnation. C'est exactement la même chose. Donc, quand vous venez communier en état de grâce, imaginez-vous que vous êtes vraiment, j'irais littéralement dans la peau de la Très Sainte Vierge Marie, que vous recevez la visite de l'ange. Et que notre Seigneur Jésus-Christ vous demande, à vous aussi, à moi aussi, comme prêtre, au moment où je communie, vous demande, est-ce que vous voulez recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, vous aussi, d'une certaine façon, devenir père et mère de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut vraiment aller jusqu'à là, l'incarnation est renouvelée d'une façon symbolique et finalement d'une façon mystique, est renouvelée dans notre âme à chaque fois que nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, avec son âme et sa divinité, son corps, son sang, son âme et sa divinité, va s'unir à notre nature humaine. Et donc, il y a une différence fondamentale entre l'incarnation telle qu'elle s'est effectuée dans le sein de la Très Sainte Vierge Marie il y a 2000 ans et l'incarnation qui se renouvelle de façon allégorique en notre cœur. Quelle est cette différence essentielle ? La différence essentielle, c'est que la Très Sainte Vierge Marie va conserver l'enfant Jésus en son cœur pendant 9 mois. Nous, pauvres pécheurs que nous sommes, nous allons recevoir et conserver l'enfant Jésus en nous, dans notre cœur, l'hostie consacrée à notre cœur, simplement pendant 10 minutes. Et dès que les sucs gastriques vont détruire, vont faire disparaître la présence réelle, évidemment, il n'y aura plus notre Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. La deuxième différence, qui est aussi très importante, qu'il faut bien comprendre, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est descendu de l'âme de la Très Sainte Vierge Marie, il y a 2000 ans, est descendu dans une âme qui était Immaculée Conception. De l'Immaculée Conception, une âme parfaitement pure, une âme parfaitement belle, une âme parfaitement propre. Alors qu'au contraire, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ vient dans notre cœur, dans la Sainte Communion, notre âme est loin d'être parfaitement pure. Même si nous sommes en état de grâce, il y a toujours dans une âme catholique, toujours des péchés véniels qui traînent à droite et à gauche, des toiles d'araignée, un petit peu de poussière dans l'âme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut apprendre, mes chers frères, à chaque fois que nous venons communier, avant que de recevoir la Sainte Communion, il faut demander à la Très Sainte Vierge Marie de venir et de ses doigts délicats venir nettoyer notre âme, achever la purification de notre âme. C'est la Très Sainte Vierge Marie qui est celle qui a reçu notre Seigneur Jésus-Christ. Donc elle est chargée de cette réception. De la même façon que la Très Sainte Vierge Marie a reçu en son sein notre Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans, de la même façon, si on l'appelle, va venir dans notre âme, à chaque fois qu'on communie, avant la communion, demandez-lui de venir dans votre âme et de vérifier la place. Et elle va nous dire, là, il y a quelque chose à changer. Là, ça, c'est pas en ordre. Là, c'est ça. Là, il y a l'étoile d'araignée, là, un peu de poussière. Nettoyez ça correctement avant de communier. Et la Très Sainte Vierge Marie va tout préparer parce qu'elle sait comment s'occuper de son fils. C'est ce qu'elle a fait pendant 33 ans ici-bas. eh bien, elle va nous aider justement à ce que notre âme soit parfaitement pure pour recevoir notre Seigneur. D'où l'importance de la Sainte Communion. On dit, et c'est vrai qu'on comprendra ce qu'est la Sainte Communion le jour où on n'aura plus de communion. La Sainte Communion est quelque chose de tellement important, la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ cachée sous les apparences du pain. La Sainte Communion est tellement importante que certains pères vont jusqu'à dire, et je crois qu'ils ont raison, que le monde ne peut pas survivre sans la présence réelle. D'ailleurs, c'est une thèse de théologie dogmatique qu'on a le droit de suivre, qui n'est pas de foi, mais qu'on a le droit de suivre, qui dit que la présence réelle est tellement importante pour soutenir le monde littéralement, que le jour où le dernier prêtre mourra, il n'y aura plus de messe, évidemment, puisque le prêtre est nécessaire pour qu'il y ait la Sainte Messe. Le jour où le dernier prêtre mourra, il n'y aura plus de messe, ce sera la fin du monde. Que la fin du monde arrivera, le jour précis, le dernier prêtre mourra, il n'y aura plus à ce moment-là la possibilité d'offrir le sacrifice de la messe. Comme le monde ne peut pas tourner sans le sacrifice de la messe, de la même façon que l'univers ne peut pas tourner sans le soleil, de cette façon-là, lorsque le sacrifice de la messe disparaît, ce sera la fin du monde. Alors demandons, eh bien, chers frères, cette grâce de savoir utiliser le bon Dieu, de savoir utiliser notre Seigneur Jésus-Christ. La présence réelle est quelque chose de tellement important que le bon Dieu a placé littéralement autour de cette perle, la perle précieuse de l'Église, le Saint Sacrifice de la Sainte Eucharistie. Il a placé comme deux écrins. Premier écrin, c'est la messe, bien sûr. Deuxième écrin, c'est le sacerdoce. Et ces trois choses sont parfaitement unies. Ne pas séparer le prêtre de la messe, de la Sainte Eucharistie. Pour avoir la Sainte Eucharistie, qu'est-ce qu'il faut pour la Sainte Messe? Pour avoir la Sainte Messe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le prêtre. Et si nous avons du mal à comprendre ces choses-là, permettez-moi de vous dire que le démon a parfaitement compris ces choses. Et que donc, pour faire disparaître la présence réelle, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait d'abord attaquer le sacerdoce. Et c'est ce qui a été fait en 68. En 68, dans l'église de Vatican II, justement, ils ont modifié les textes des rituels d'ordination des prêtres, plus les textes de l'ordination sacerdotale des évêques, la consécration sacerdotale des évêques, de telle façon que, évidemment, pratiquement, ça soit invalide. C'est ça le drame. C'est que malheureusement, tous les prêtres qui ont été ordonnés en 68 avec le nouveau rite, ou les évêques qui ont été consacrés eux-mêmes en 68 avec le nouveau rite, vraisemblablement ne sont pas évêques, et donc il n'y a plus de prêtres. S'il n'y a plus de prêtres parmi eux, à ce moment-là, il n'y a plus de Saint-Sacrifice de la Messe. S'il n'y a plus de Saint-Sacrifice de la Messe, il n'y a plus de présence réelle. Et donc, le mystère de l'incarnation ne peut plus se renouveler dans nos âmes. Voilà pourquoi il est tellement important, mes bien chers frères, de protéger le sacerdoce. Merci. J'ai été ordonné prêtre après 68, mais avec le rite traditionnel d'avant 68, et par un évêque, Mgr Lefebvre, qui lui-même avait été consacré évêque avec le rite traditionnel de l'Église. Et ceci nous aide à comprendre comment le cœur de l'Église, c'est le Saint-Sacrement. Et donc, il faut que ce cœur de l'Église rentre dans notre cœur pour que notre cœur soit uni au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie, puisqu'on ne peut pas séparer, évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ de sa mère. Là où est notre Seigneur Jésus-Christ, là est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où est le roi, là est la reine. Là où est notre Seigneur, là est Marie. C'est ce qui est inscrit sur mon canice d'ordination que j'utilise tous les matins. Hein? Là où est le Christ, là est Jésus. Là est Notre-Dame, là est Marie. La formule préférée de Saint Jean Eudes. Alors demandons, eh bien, chers frères, demandons cette grâce de comprendre toutes ces choses, autant que faire se peut. Bien sûr, ce sont des mystères. Il faut méditer ces mystères pour comprendre par la Sainte Communion, quand je suis en état de grâce, je renouvelle autant que faire se peut le mystère de l'incarnation dans mon cœur. Et à ce moment-là, mon cœur va être comme un feu vibrant de force, et mon âme va devenir comme l'âme d'un soldat de notre Seigneur Jésus-Christ, prêt à tout pour justement prêcher notre Seigneur Jésus-Christ par sa façon de vivre. Cette âme, cette sainte Eucharistie dans notre âme, va donner à cette âme une force divine capable de tout transformer. Si nous avions compris toutes ces choses, mes bien chers frères, si nous avions compris comment justement notre Seigneur Jésus-Christ, par la présence réelle en nous, dans notre âme, par la Sainte Communion, fait de nos âmes en quelque sorte des feux qui littéralement vont enflammer le monde. Et n'oubliez pas que le catholique doit être la lumière du monde et le sel de la terre. Il doit être aussi le feu qui éclaire. Nous sommes dans un monde qui est complètement dans l'obscurité la plus totale, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a été rejeté de ce monde. On n'en parle plus, plus personne n'en parle. On voit très bien avec tous les candidats qui se présentent pour les élections présidentielles, il n'y en a pas un seul qui a osé prononcer le nom de Dieu. On demande de voter pour des gens qui se moquent totalement de Dieu, pour lesquels notre Seigneur Jésus-Christ n'a plus aucune importance. Eh bien, mes bien chers frères, ne tombons pas dans ce panneau, et nous, catholiques, faisons très attention justement à ce que notre Seigneur Jésus-Christ soit pour nous la chose la plus importante. Que vraiment notre Seigneur Jésus-Christ soit dans notre âme, que notre Seigneur Jésus-Christ reste dans notre âme, afin que justement notre Seigneur Jésus-Christ puisse, comme un feu dévorant, être la lumière du monde, au moins dans mon âme, au moins dans ma famille. Certes, nous ne pouvons pas convertir le monde, mais le bon Dieu nous demande de commencer à convertir le territoire de mission qu'il nous a confié. Quel est ce territoire de mission qu'il nous a confié? D'abord notre âme. Pour ceux qui sont mariés, qui ont une famille, votre famille. Voilà le territoire de mission. Qu'au moins dans ce territoire de mission, notre Seigneur Jésus-Christ soit véritablement roi. Que dans ce territoire de mission, notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment le chef, le guide spirituel qui nous amène vers le ciel. Alors demandons toutes ces grâces, mes chers frères, par la très sainte Vierge Marie. Utilisons cette fin de carême qui arrive maintenant bientôt. Utilisons cette fin de carême justement pour préparer nos âmes afin que nous puissions communier en état de grâce. N'oublions pas que l'Église demande, exige que tous les catholiques communient et donc se confessent au moins une fois par an pendant le temps pascal. En fait, le temps de la communion, strictement parlant, c'est une semaine avant la fête de Pâques, qu'une semaine après la fête de Pâques. C'est souvent étendu par les évêques depuis 2 semaines avant Pâques, dimanche de la Passion, jusqu'au deuxième dimanche après Pâques. N'hésitez pas à venir quand vous voulez, quand je suis là, pour justement vous confesser, si vous avez besoin de vous confesser, pour que votre âme soit le plus pure possible, la plus pure possible, le jour de Pâques. Que notre Seigneur Jésus-Christ puisse renouveler dans notre cœur le mystère de l'incarnation. Nous demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.